Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Nous héritons de notre famille pas seulement des moyens matériels, mais aussi des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs. C'est ce que déclarait en 1991 le sociologue Pierre Bourdieu dans un documentaire où il expliquait la notion de capital culturel intrinsèquement lié à celui de culture générale. Mais que recouvre la culture générale à l'heure où concours et euros charrient leur lot d'épreuves en la matière? La culture générale est-elle une culture officielle? Bonjour Éric Cobas.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Académie de l'éloquence chez InsecU. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la culture générale et vous êtes considéré, désolé, un peu comme le pape, de la culture générale. Il faut tout d'abord que vous nous définissiez cette notion.
Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses en fait, hein, et tout est rien. La culture générale, c'est la culture de tous. Donc c'est aussi celle qui est véhiculée par l'école. C'est d'abord celle-là, la culture générale. C'est aussi celle de Julien Lepers ou bien d'autres joueurs. Hein. C'est Trial Poursuite, Question pour un champion. Là, c'est quelque chose de quantitatif, sans grand intérêt. Et puis c'est aussi effectivement un moyen de sélectionner les étudiants à l'entrée des grandes écoles.
Mais alors ce que dit Bourdieu notamment, c'est que c'est un moyen particulièrement injuste parce que finalement, ça donne une chance à ceux qui ont été élevé dans un milieu où on baignait dans ce bain-là.
Bien sûr, il parle des concours, hein, bien évidemment. Il parle de ces épreuves de culture générale, avec la fameuse épreuve du troisième jour à l'ENA.
Et alors, qu'est-ce que l'on peut rétorquer à ça? Vous qui êtes prof, justement, qui enseignez la culture générale, comment on peut faire en sorte, sinon de défendre la discipline que vous enseignez, Éric Cobast, du moins, en tout cas, de voir qu'il n'y a pas, finalement, de caractère inéluctable de cette transmission?
Alors, c'est quand même, enfin, il y a quand même une vraie difficulté, hein, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et je crois que la difficulté, elle ne tient pas tellement à l'objet. D'ailleurs, l'objet, il est compliqué à définir, un peu impur. On peut en parler si vous voulez, mais bon, oui, parce que c'est plutôt finalement une façon d'articuler les savoirs. Michel Prigent qui m'a donné la chance de publier beaucoup au PUF, qui était plutôt un lieu universitaire.
Qui dirigeait les presses universitaires.
Voilà, absolument. Avait l'habitude de dire, c'est en général, c'est mettre les savoirs en réseau. Et c'est exactement ça. Hein, c'est mettre en lien finalement des savoirs qui viennent de l'histoire, qui viennent de la philo, etc. Donc ça, c'est le contenu, ça pose pas un problème. La vraie difficulté, c'est que quand on parle de culture générale, en fait, on a tendance à oublier que dans les concours, ça passe par une dissertation. Et ce qui est très discriminant, c'est la pratique de la dissertation. Alors, la dissertation de culture générale est particulièrement discriminante puisque on ajoute à la difficulté du maniement de l'écrit, eh bien, ces connaissances quand même qui sont très très larges et cette agilité intellectuelle à relier des choses qui dans un premier temps, semblent pas aller ensemble.
Comment vous faites pour enseigner la culture générale? Qu'est-ce que vous demandez à vos étudiants, Éric Cobast?
Alors, ce que je demandais à la parfait, parce que c'est terminé, je n'enseigne plus, puisque c'est une épreuve qui tend à disparaître, hein, il faut quand même le dire. Elle va probablement disparaître, parce que l'ENA aussi va changer. Elle a disparu de Sciences Po, donc elle évolue. L'idée, c'est quand même, au départ, il y a un travail sur les mots. Hein. Je pense que la culture générale, c'est d'abord par le langage qu'elle passe. Donc, revenir au sens des mots, revenir à leur utilisation, et puis ensuite déplier à partir de ces mots eh bien des liens avec l'histoire, avec surtout la philo. En fait, c'est de la philo light, hein, puisque on argumente au-delà finalement du champ notionnel et philosophique en allant chercher du côté de la littérature, de
l'art. Donnez-nous des exemples de manière dont cela peut se dérouler. Qu'est-ce que vous demandiez donc à vos étudiants?
Par exemple, la culture générale aujourd'hui, ça passe beaucoup par les écoles de commerce. Hein. Il y a un thème chaque année qui est choisi. L'année prochaine, ce sera le désir. Un travail sur le désir, on commence d'abord par s'interroger sur ce que signifie le mot désir. Ça vient de quel mot en latin? C'est l'étoile, tout le monde ne le sait peut-être pas. Ben là, ça demande effectivement juste un petit peu d'érudition. Sidus, Sideris, c'est l'étoile. Le désir, eh bien, c'est ce qui prend celui qui, en regardant le ciel, s'aperçoit que l'étoile qu'il regardait habituellement a disparu. Donc le désir, c'est d'abord du côté du manque, le manque d'une étoile. Une étoile, c'est ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui brille, c'est ce qu'on idéalise, et on déroule. Évidemment, à partir de là, en l'opposant au besoin, par exemple.
Tout au long de votre carrière d'enseignant, est-ce que vous avez vu une évolution de la culture générale de vos étudiants avant donc qu'ils n'entrent dans vos cours, Éric Cobast?
Oui, il y a une évolution parce que, je vous le disais, je crois que le vrai problème, on se cristallise sur le contenu, mais le vrai problème, il est formel. C'est réellement la question de l'écrit qui est posée. Et c'est vrai que la culture générale rend plus voyante cette difficulté qui est celle de l'écrit. Et le maniement de l'écrit, comme vous le disiez tout à l'heure, en rappelant Bourdieu, et c'est presque devenu aujourd'hui un lieu commun, c'est quelque chose qui passe par le capital culturel, qui se transmet effectivement de génération en génération quasiment, et puis qui commence très tôt. Enfin, on stimule très vite les gens à la lecture.
C'est étrange parce que on se dit que la culture générale est particulièrement discriminante à l'oral. On songe évidemment aux oraux des grands grandes écoles où, alors je ne sais pas si c'est la réalité ou un mythe, on a des joutes oratoires où ceux qui s'en tirent bien sont finalement ceux qui sont à l'aise dans ces exercices mondains, Éric Cobaste.
Alors je ne crois pas, là justement je ne crois pas, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment avec l'Académie de l'éloquence. D'ailleurs finalement quand vous regardez ce qui se passe autour de nous dans les médias, regardez le Brio par exemple, regardez Eloquentia, donc ce que font un certain nombre de collègues, justement ils vont chercher les étudiants qui pourraient ne pas finalement bénéficier de ce fameux capital culturel, ils vont les chercher, ils les forment, ils les emmènent justement vers un maniement de l'art oratoire qui va les libérer et leur redonner peut-être le sens des mots. Et en leur redonnant le goût et le sens des mots, ils ont peut-être une chance de revenir à l'écriture aussi. Et de toute façon, l'oral précède toujours l'écrit. C'est Vumaroli qui l'expliquait. Les grands écrivains sont d'abord des grands orateurs. Donc je pense vraiment qu'en allant chercher les gens du côté
ça,
de l'oral...
Ça, lorsque vous interviewez les écrivains, ce n'est pas le cas de tous. Il y en a beaucoup de très célèbres qui ont des difficultés pour parler alors qu'ils écrivent.
Ouais, je vous parlais des grands écrivains. Victor Hugo, par exemple, je dois dire. Non, mais bon, non, c'est une boutade. Mais c'est vrai qu'au départ, ça commence d'abord par effectivement les discours. C'était la formation d'ailleurs des jeunes au 19e siècle. On commence d'abord par apprendre à parler avant d'apprendre à écrire.
Apprendre à parler, et là aussi, lorsque vous devez inculquer un certain nombre de connaissances, je dis inculquer parce que on a l'impression que c'est une culture un peu artificielle, que ce sont des listes, que ce sont des choses que les étudiants n'ont pas le temps de digérer. Vous faites nom de la tête, Éric Cobaste.
Non, parce que ça, c'est pas. Enfin, excusez-moi, je pense que c'est totalement. Ouais, je pense que c'est totalement cliché. C'est l'idée qu'on avait avant, une sorte de culture générale que, entre parenthèses, l'Internet a fait exploser. Parce que très franchement, apprendre par cœur des listes de pharaons, ou apprendre par cœur. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça?
C'est peut-être pas mauvais pour la mémoire, remarquez.
Ouais,
des
vrai,
listes de pharaons.
C'est ça. Mais pour la mémoire, c'est bien. Mais sinon, si vous voulez, quand vous avez Wikipédia, que vous avez voilà l'outil numérique à côté, enfin, c'est une blague, enfin, ça n'a plus tellement de sens. En revanche, effectivement, prendre l'habitude de faire des liens, de tirer les conséquences de telle ou telle observation, finalement d'amplifier aussi, c'est-à-dire de donner un petit peu de volume à une remarque rabougrie, ce sont des techniques qui peuvent s'apprendre et qui ne demandent pas une mémoire extraordinaire.
Alors qu'est-ce qui est difficile véritablement dans la culture générale, puisque vous l'avez enseigné, vous avez publié différents ouvrages, Éric Cobaste, à ce sujet?
Je pense que ce qui est difficile, c'est de lutter contre une tendance naturelle en France qui est la tendance du silo. C'est-à-dire que les disciplines, chez nous, elles sont présentées de manière complètement verticale. Et la culture générale, c'est la mise en réseau. Je cite Michel Prigent, qui était quelqu'un de vraiment formidable. La mise en réseau. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas nouveau, puisque l'encyclopédie, c'est ça que ça veut dire. Encyclopédia, c'est mettre en cercle les connaissances. Donc, finalement, c'est le retour à l'encyclopédisme. Mais ça, on n'a pas l'habitude. On aime bien les disciplines, bien verticales, universitaires. Enfin, voilà.
Mais voilà, mélange, c'est l'esprit, comme disait Valérie. Puisque France Culture va célébrer Valérie ce week-end, j'en profite pour parler de Valérie. Merci beaucoup, Éric Cobaste.
Merci.
Les 100 lieux de la culture générale, c'est l'un des ouvrages que vous avez consacré à votre discipline et c'est publié aux Presses universitaires de France.